Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. N'hésitez pas à soutenir Storia Voce. Pour ce faire, une seule chose, rendez-vous sur notre site storiavoce.com, sur l'espace Soutenez-nous, où vous pouvez recevoir un livre en échange d'un don. Et dans ces livres disponibles, il y a le livre de Muriel Gaude-Ferragut, La Reine au Moyen-Âge, Le pouvoir au féminin, 14e-15e siècle, un livre édité chez Talendier et réédité dans la collection de poche des éditions Talendier, la collection Texto. Muriel Gaude-Ferragut, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes historienne, maître de conférence à l'Université de Paris 13 et membre junior de l'Institut universitaire de France. Et comme je viens de le dire, vous êtes l'auteur de ce livre, La Reine au Moyen-Âge. Alors, Storia Voce a fait déjà plusieurs émissions sur notamment la place de la femme dans le monde chrétien. Mais vous êtes parti d'un constat, et ce constat est assez simple, c'est qu'à côté de personnages comme Agnès Sorel, il y a des souveraines des 14e et 15e siècles qui sont totalement tomber dans l'oubli. Comment expliquer le fait que ces personnages féminins qui sont importants, Jeanne de Boulogne, Blanche de Navarre, Jeanne de Bourgogne, mais aussi Blanche de Bourgogne ou bien Clémence de Hongrie, pourquoi ces personnages sont tombés dans l'oubli ?
Alors, il me semble qu'ils sont tombés dans l'oubli parce que la reine, bien évidemment, en France, ne dispose pas donc de l'auctoritas du pouvoir politique réel, et dans les chroniques ou même dans les chartes aux archives nationales, bien évidemment, les historiens, notamment positivistes pendant longtemps, ont surtout étudié des formes de pouvoir dont la trace était écrite et évidente. Et pour les reines, c'est bien plus compliqué, on en reparlera sans doute, mais le pouvoir est aussi un pouvoir d'influence, un pouvoir dans le domaine de la médiation, mais c'est moins visible, c'est un pouvoir qui est moins visible que celui du roi. Et ensuite, la loi salique a aussi rendu la reine bien plus invisible, puisque pour les chroniqueurs, elle était devenue simplement un ventre. Il fallait qu'elle donne des héritiers au royaume, mais en tout cas, on lui dénie toute forme de pouvoir. Et à partir du moment où elles ont bien ce pouvoir, on en fait dans ces cas-là une mauvaise reine.
Alors, vous écrivez dans votre introduction « À chacun son rôle ». Est-ce que c'est un rôle inférieur ou bien on parlera plutôt d'un rôle particulier ou bien les deux ?
Alors aujourd'hui, on parle plutôt d'une complémentarité en réalité entre le roi et sa compagne, une compagne qu'il met d'ailleurs en avant. On n'est pas du tout dans un domaine ici de concurrence des pouvoirs, on est vraiment dans un domaine complémentaire. On le voit très bien même au niveau du sacré, du religieux, puisque le roi va prendre à son compte un certain nombre de fondations, mais d'autres sont laissées plutôt à la reine. On a vraiment une complémentarité entre les deux pouvoirs.
Alors, venons-en directement au sujet, plongeons dans le sujet. Vous évoquiez le fait que des chroniqueurs estimaient que la reine était d'abord un ventre. Donc, on épouse une reine pour avoir des enfants. Mais avant de parler des enfants, il me semble important de parler du fait tout simplement de réaliser un acte politique, parce que les épousailles sont un acte politique d'abord et avant tout. On n'épouse pas une reine ou une femme parce qu'elle est belle.
On ne l'épouse pas parce qu'elle est belle, et j'avais donné, je crois, l'exemple justement de l'empereur Justinien qui, lui, avait choisi son épouse.
Théodora.
Voilà, après un concours de beauté. C'est absolument pas le cas pour les rois de France, bien que on voit au début du 15e siècle quand même les portraits de plus en plus. On demande à des peintres d'aller faire des portraits des reines, et on sait que quand Charles VI, alors c'est peut-être une légende relatée par les chroniqueurs, mais a choisi donc celle que j'appellerais moi Isabelle de Bavière, on reviendra peut-être ensuite sur cette dénomination, donc Isabeau de Bavière dans l'historiographie, mais aujourd'hui on essaye de réhabiliter son vrai nom. Quand il choisit donc Isabelle de Bavière, il a un portrait en fait de trois jeunes princesses, et il l'aurait choisi. Alors, c'est peut-être une légende, donc
voilà, face à sa beauté. Donc on épouse pour des raisons politiques, on réalise en fait une union, ce que vous appelez une union passière.
Alors, on réalise plusieurs types d'unions. Effectivement, dans le cas d'une de guerre ou de conflit, j'ai parlé d'une union passière, puisqu'il s'agissait par la femme d'inoculer quelque part la paix entre deux familles qui s'opposaient. Alors on peut penser par exemple à Anne de Bretagne d'un côté, François II son père, duc de Bretagne, donc qui s'oppose à ce moment-là au roi de France, Louis XI puis Charles VIII. Et donc Charles VIII finit par occuper la principauté bretonne et le mariage avec Anne de Bretagne vient conclure un traité de paix, le traité de Langeais.
Alors il y a un changement de branche puisqu'il y a l'arrivée des Valois et dans le contexte du changement de branche, on se marie également pour renforcer en quelque sorte le sang royal.
Voilà, donc c'est ce que il y a deux types. Enfin, outre l'union passière, il y a aussi l'union quand même pour agrandir territorialement le royaume. Hein, on le voit bien aussi dans ces types de mariages, notamment quand Philippe IV épouse Jeanne de Navarre, il s'agit pour lui d'obtenir quand même notamment le comté de Champagne, etc. Mais il y a aussi avec le changement de branche. Donc en 1328, on passe de la dynastie directe des Capétiens à, on parlera d'un changement de branche puisqu'il s'agit d'un cousin germain du roi, donc c'est pas vraiment un changement dynastique, donc les Valois. Et dans ces cas-là, il s'agit de renforcer vraiment le sang de France. Et la plupart, il y a un certain nombre de princesses là qui sont épousées, qui sont directement issues là du sang capétien. Donc on le voit bien aussi, donc Philippe VI de Valois a épousé une descendante, une petite fille de Louis IX. Et puis ensuite, hein, Charles V avec Jeanne de Bourbon, on est ici dans la lignée directe des Capétiens.
Ça veut dire qu'on on a l'image du mariage entre soi dans la même famille. C'est une légende ou c'est une réalité ?
C'est une réalité pour un certain nombre de mariages. On peut soit avoir des mariages, là pour le 14e, 15e siècle, avec des princesses françaises. Et donc le sang, il y a à un moment donné un sang qui est quand même commun quand on remonte les générations. On peut épouser aussi, il y a deux exemples, hein, des princesses étrangères et on peut penser donc justement à Isabelle de Bavière, hein, qui est la fille du duc de Bavière-Ingolstadt et auparavant, Bonne de Luxembourg, qui était l'épouse de Jean II, était aussi une princesse étrangère. Donc il y a plusieurs cas de figure.
On se marie d'abord, on s'aime ensuite ?
Alors l'amour au Moyen-Âge n'est pas l'amour coup de foudre et l'amour passion, hein, au contraire, l'Église s'en défie énormément et on cherche un amour qui serait fait d'une affection, on parle de l'affection maritale, donc avec un certain nombre de points communs qui rapprocheraient les époux, mais on veut toujours rester dans la mesure. Voilà, donc on peut pas parler de mariage d'amour, mais on peut parler, par contre, on a un certain nombre de cas où il y a vraiment une affection entre époux, tout simplement.
Alors, il y a un moment essentiel, ou plutôt un fait essentiel, c'est que la reine devient reine, non pas par un sacre, comme le roi devient roi par le sacre, la reine devient reine par son mariage.
Les deux. Encore au XIVe, XVe siècle, vraiment la cérémonie du sacre est importante et on voit très bien qu'une reine quelqu'un qui n'est pas sacré, on hésite hein, vraiment même à lui donner une sépulture à Saint-Denis, etc. Donc il y a quand même, le sacre a quand même un rôle encore très important et d'ailleurs la plupart des reines de France sont sacrées, à quelques exceptions près effectivement au XVe siècle.
En même temps que le roi ?
Pas forcément, ça peut être en même temps que le roi quand le mariage a eu lieu avant l'accession à la couronne. Et donc on a un très beau récit comme ça, donc de Charles V et Jeanne de Bourbon, hein, qui sont effectivement sacrés le même jour à Reims. Et on a vraiment toute la description, ça c'est vraiment un document très important, du sacre et du roi, le traité du sacre, mais également de la reine, où on voit à quel point ce sacre est important et déterminant aussi pour son pouvoir, puisque même si elle n'est pas sacrée, et c'est la grande différence avec le roi, avec l'huile de la Sainte Ampoule, donc l'huile venue de Dieu, hein, elle n'a pas ce droit, elle est quand même sacrée avec une huile bénie, et cette huile lui donne un pouvoir qui est quand même dans le domaine du sacré, hein, vraiment dans un domaine supérieur, à tel point que pendant la messe, après donc le sacre et le couronnement, elle communie comme son époux sous les deux espèces, donc le pain et le vin, ce qui est complètement normalement interdit hein, à des laïcs, alors à une femme encore plus. Et donc elle a un côté quand même qui renforce son aura hein, sacré.
Est-ce qu'on peut comparer, parce que souvent, on dit qu'après le sac, le roi a une sorte de double personnalité, à la fois mi-laïque, mi-clair. Est-ce que c'est la même chose pour la reine? Est-ce qu'il y a cette sacralité dont vous parliez? Est-ce que ça lui donne une sorte de dignité spirituelle supérieure par rapport au commun des mortels?
Ça lui donne une aura spirituelle sans doute supérieure, mais on ne retrouve jamais dans les traités politiques d'idées de d'une reine prêtresse entre guillemets, hein, ce qu'on peut retrouver plus pour le roi et encore hein, avec beaucoup de guillemets. Pour la reine, on ne retrouve pas cette idée-là, on retrouve juste l'idée d'une sphère un peu supérieure.
Mmh. Alors, venons-en au... à la progéniture. C'est le but essentiel d'un mariage, au-delà de son aspect politique, c'est bien la procréation.
Tout à fait. Il faut que la reine puisse donner des héritiers à la couronne. Donc, je parle bien d'héritiers. Hein. Alors, jusque-là, le miracle entre guillemets capétien avait fait que jusqu'en 1316. Les rois de France avaient toujours, et donc leurs épouses, avaient toujours eu des héritiers mâles. Et donc le problème de la succession à une fille ne s'était jamais posé. On a toujours eu un héritier. Le gros souci, c'est donc en 1316, effectivement, puisque pour la première fois, la reine, là, ne donne pas un garçon survivant hein, à son époux Louis X. Et du coup, quand Louis X meurt, eh bien, il n'y a qu'une petite fille. Et par donc un coup de force de son frère, hein, le futur roi Philippe V, cette petite fille est écartée du trône. Elle n'a pas le pouvoir militaire, lui a la force, etc. Et donc, c'est un vrai coup de force. La loi salique n'existe pas. Il n'y a encore eu aucun traité hein, sur la faiblesse, enfin la non-possibilité pour les femmes d'hériter, on n'en est pas du tout là, c'est vraiment un coup de force qui fait que les filles sont exclues à ce moment-là de la couronne. Donc là encore, après ce coup de force, il va falloir que les reines donnent non seulement des enfants, mais des héritiers mâles hein, pour éviter donc le changement de branche qu'on connaît ensuite en 1328.
Les grossesses sont difficiles, c'est un peu l'époque de tous les dangers.
C'est l'époque de tous les dangers, surtout au moment du premier. On dit toujours l'accouchement souvent le plus risqué, le premier accouchement. Il faut se rappeler que un tiers des femmes meurent au moment de leur premier accouchement. Donc c'est vraiment la grossesse en elle-même est très risquée. Et alors voilà, il y a un certain nombre de mois où notamment il faut faire vraiment très attention, mais c'est au moment de l'accouchement que voilà tous les dangers sont possibles et donc il y a un certain nombre de reines qui là meurent. Alors notamment je pense à Jeanne de Bourbon. Hein, on sait qu'elle meurt au bout de 2-3 jours après son accouchement d'une fièvre post-puerpérale. Donc on est encore vraiment dans des accouchements périlleux.
Nous n'avons pas parlé de l'éducation des reines, nous aurions pu en parler. En revanche, évoquons l'éducation des enfants. Vous montrez un mouvement historiographique qui vise à, contredire l'idée que les enfants sont séparés de leurs parents.
Alors, notamment des reines ou des princesses, peu importe. On a longtemps fait, finalement, de ces reines, sans doute... non pas forcément des mauvaises reines, mais des mauvaises mères, je veux dire, mais en tout cas des mères qui se désintéressaient très largement de leur progéniture. Et aujourd'hui, on revient là-dessus. Alors, on a un certain nombre d'indices. Alors, notamment, moi, dans les livres de comptes, hein, j'ai vraiment tous les achats que la reine peut faire pour ses enfants. Et on voit très bien qu'elle achète un hochet, qu'elle achète une petite poupée, un petit livre pour l'abécédaire, en fait, pour lui apprendre à lire, etc. Donc, il y a vraiment ces achats qui sont faits. On voit très bien aussi que la reine garde auprès d'elle très souvent ces enfants. Alors on pouvait pas toujours le déterminer parce qu'on ne sait pas où ils habitent. Et là aussi dans les contes, on voit très bien que la reine réside dans tel ou tel palais et on a ensuite la nourriture qui est donnée aux enfants. On voit très bien que ils sont à côté d'elle, ils sont près d'elle. Même si alors les contes c'est surtout, je parle surtout d'Isabelle de Bavière puisque c'est pour elle qu'on a conservé ces contes. Pour les autres finalement, le problème c'est toujours les sources. Donc pour elle, on voit bien que elle part certes en pèlerinage de temps en temps ou en voyage politique, mais la plupart du temps, elle est auprès de ses enfants.
Il y a une comparaison que vous faites. Et il y a quasiment une image mariale de la reine, puisqu'on compare la reine, notamment dans son enfantement, à la Vierge Marie.
C'est un mouvement vraiment qui se développe justement au XIVe, XVe siècle, qu'on connaissait ensuite pour l'époque moderne, avec cette, voilà, par exemple Marie de Médicis, hein, comparée à la Vierge. Mais j'ai pu retracer la genèse finalement de cette assimilation, de cette allégorie virginale, et on voit très bien que c'est dans le cadre au XIVe siècle, donc d'une monarchie qui a besoin de plus en plus de se légitimer avec justement ce changement de branche. Et donc on assiste au XIVe siècle, notamment sous le roi Charles V, à une sursacralisation donc de la royauté. Il s'agit de montrer, hein, vraiment c'est le monarque très chrétien, et on développe toute une série de symboles pour montrer cette sursacralisation. Eh bien, le pendant, puisque tout à l'heure je parlais de la complémentarité finalement plutôt entre les sexes et non d'une concurrence, et donc le pendant, c'est que on va mettre en avant le corps de la reine à travers des cérémonies, à travers des écrits, hein, de
une
manière
théâtralisation.
Donc, une théâtralisation que l'on voit très bien avec la grande entrée justement d'Isabelle de Bavière, où alors là on a des pièces de théâtre qui sont vraiment créées où elle devient la Vierge Marie, hein, donc c'est une actrice qui joue le rôle, mais à chaque fois que la reine s'avance vers cette pièce de théâtre, on a même à un moment donné donc ces anges, hein, qui descendent du ciel, donc il y a tout un système bien sûr de mécanismes et autres pour poser la couronne. Donc on est ici dans le couronnement de la Vierge, une Assomption et un couronnement de la Vierge, qui donc c'est une pièce de théâtre ici qui symbolise la reine, qui renvoie comme un miroir l'image de la reine terrestre assimilée ici à la reine céleste. Mmh. Et on retrouve ça dans des traités politiques, et notamment l'un des traités les plus importants est écrit justement par une femme, le grand écrivain donc du XIVe, XVe siècle, Christine de Pisan, et elle va vraiment théoriser en disant que comme la Vierge Marie est l'avocate de l'humanité, eh bien, la reine, elle, terrestre, doit être aussi l'avocate entre le roi et ses sujets. Elle lui assigne vraiment une fonction de médiation liée à cette assimilation avec la reine, avec la Vierge Marie.
Venons-en à la politique et au rôle politique. Est-ce que les chartes royales définissent, on a beaucoup parlé sous François Hollande du rôle de la première dame, à savoir fallait-il l'inscrire ou non, soit dans la Constitution, soit dans un texte de loi. Est-ce que les chartes royales évoquent le ou les rôles de la reine ?
Les chartes royales, justement, laissent penser que le pouvoir d'autorité qu'elles ont pu à un moment donné détenir s'essouffle et voire disparaît à partir du règne de Philippe Auguste, donc on est à la fin du XIIe, début XIIIe siècle, alors que leur nom apparaissait pendant longtemps justement dans les chartes, eh bien petit à petit on ne les retrouve plus forcément pour les XIIIe, XIVe, XVe siècles. On retrouve toujours des noms de reines et des sceaux, hein, dans les chartes, mais il s'agit alors de fondation pieuse, de fondation charitable, ou alors il s'agit à chaque fois, même si les femmes sont exclues de la couronne, qu'il n'y a pas de reine au sens plein entier de souveraineté, les femmes par contre peuvent toujours hériter de principautés parfois très importantes, et on voit bien avec Anne, duchesse de Bretagne. Et dans ces cas-là, on voit leur nom apparaître dans les chartes parce que elles sont seigneurs à part entière, elles sont princes de ces territoires-là. Et à ce titre, comme seigneurs naturels de ces régions, elles agissent et elles prennent des lois, elles légifèrent, elles nomment des officiers, etc., etc. Donc on les voit agir politiquement, mais pas dans les actes de gouvernement qui seraient, entre guillemets, dans cet espace de monarchie de plus en plus centralisée avec une administration qui s'étoffe. Leur nom disparaît donc de plus en plus dans les chartes, mais pour autant, on se demande si ça peut pas être aussi un effet de rédaction aussi de la chancellerie. C'est pas pour autant qu'elles n'ont plus aucun pouvoir, hein, et on les voit agir d'ailleurs dans un certain nombre de médiations où c'est vraiment, on s'adresse les villes, le pape, les communautés ecclésiastiques s'adressent très souvent à la reine pour qu'elle puisse intervenir. Donc, on n'a pas leur nom, effectivement, dans les grandes ordonnances, etc. C'est le roi qui prend ces décisions, mais par contre, on sait qu'elles agissent.
Mmh. À vous lire, on a l'impression que cette médiation, en fait, cette intercession, est une intercession pour panser les plaies, en quelque sorte, dans un rôle, elle se donne un rôle à la fois de justice et de paix, parfois de compassion, de libération, libération des prisonniers.
Alors c'est le rôle qu'on leur octroie aussi de manière théorique, c'est-à-dire qu'on trouve sous la plume hein, de ces théoriciens toujours l'idée que la femme est plus douce, plus compatissante, plus charitable. Donc là on est vraiment dans le domaine des voilà, on dirait par là des stéréotypes, mais voilà, donc la femme en tant que personne plus douce doit agir comme médiatrice de paix, et ça c'est pas du tout lié au Moyen-Âge. On voit même voilà
dans la Grèce,
en Grèce ancienne, oui, les femmes agissent vraiment comme vecteurs de paix. Elles sont vecteurs de paix aussi des fois par leur mariage, parce que elles sont à la liaison entre deux familles, mais plus largement elles se doivent d'être ces médiatrices de paix. Et on voit, on est ici pendant la guerre de 100 ans, un certain nombre de reines agir concrètement pour tenter de voilà, de nous faire négocier des trêves. En tout cas, on les voit agir, donc là, on pourrait dire politiquement, diplomatiquement, alors soit entre France et Angleterre, soit tout simplement parce que la dynastie donc des Valois est même contestée à l'intérieur du royaume, hein, et notamment par quelqu'un que là encore l'historiographie va nommer Charles le Mauvais. C'est tout dire, c'est tout simplement Charles d'Évreux Navarre. Il revendique lui un territoire plus important, et du coup donc on a des reines, notamment donc Jeanne d'Évreux et Blanche de Navarre, qui sont liées aux deux familles en fait, aux Évreux Navarre et au roi de France, et qui tentent et qui réussissent d'ailleurs à plusieurs reprises à rétablir la concorde.
Je cite Christine de Pisan, « Comme la reine du ciel, mère de Dieu, est appelée mère de toute chrétienté, doit être dite et appelée toute sage et bonne reine, mère et réconfort et avocate de ses sujets et de son peuple. » Cette notion de mère du peuple est assez fascinante, parce qu'au fond, ce n'est pas un rôle politique, mais on est dans une forme de symbolisme et en même temps de réalité, cette réalité de cette compassion, cette douceur auprès des peuples.
En effet, on parle toujours du roi père de ses sujets, et ce qui était très intéressant ici avec les écrits politiques, c'est qu'on voit que la reine comme femme a aussi un rôle politique à jouer, un rôle dans le fonctionnement finalement de la société civile, justement par cette... Alors, on parle d'amour au sein du royaume. Attention, c'est ici la théorie hein, enfin, d'Aristote, où on est donc dans l'amour nécessaire entre le roi et ses sujets, car le roi qui n'aime pas ses sujets donc est un tyran, et la reine participe de cet amour, du bon gouvernement. Alors, notamment par ses médiations de paix, ce qu'on vient d'évoquer, mais pas seulement, également aussi en ouvrant son manteau de quelque part, comme la Vierge Marie, charitable. Et on voit que c'est elle qui prend à sa charge aussi un certain nombre, là aussi, hein, dans la circulation de l'amour au sein du royaume, c'est elle qui prend vraiment à sa charge un certain nombre de fondations. Alors, des hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux, hein, on est là au début du XIVe siècle, et donc un certain nombre d'hôpitaux sont fondés par la reine, mais pas seulement. Le très célèbre Collège de Navarre, hein, qui est un haut lieu de l'éducation ensuite au XIVe, XVe siècle, est fondé justement par une reine, l'épouse de Philippe IV le Bel, Jeanne de Navarre, et donc qui permet à des étudiants, entre guillemets, pauvres, de venir hein, faire leurs études donc à Paris. Et le Collège de Navarre, c'est vraiment, il y a celui de Navarre, il y en a d'autres, sont fondés par des reines.
Nous n'avons pas évoqué la régence. Est-ce que la régence est un droit?
La régence, au Moyen-Âge, n'est absolument pas un droit que détient la reine mère. En effet, pendant très longtemps, d'ailleurs le terme de régence n'existe pas.
C'est donc un terme anachronique.
C'est un terme à ce moment-là qui est anachronique, qui commence à se développer. Hein. Pendant longtemps, on dit régent le royaume, dirigeant le royaume. Donc c'est un terme qui effectivement va se développer, mais il faut bien voir que est régent, donc aussi bien le frère du roi par moment que son grand ministre à d'autres périodes, et que c'est petit à petit justement là au XIVe, XVe siècle que par toute une série d'ordonnances, de loi de régence, petit à petit, la reine acquiert vraiment un rôle en cas de minorité. Alors bien sûr, le modèle absolu, c'est le 13e siècle, avec Blanche de Castille, qui elle a joué comme régente un rôle politique très important et qui est vraiment le modèle que l'on rappelle ensuite au 14e, 15e siècle. Donc la régence de Blanche de Castille, c'est vraiment un modèle. On ne sait pas si sur son lit de mort, Louis VIII, son époux, lui avait donné cette régence ou si après ça n'a pas été un acte pris quelques jours plus tard, peu importe. En tout cas, c'est vraiment le modèle de la régence. Et ensuite, on voit très bien que les rois ont tendance justement à mettre sur le devant de la scène leurs épouses. Alors je pense notamment à la première grande loi à ce propos, c'est Philippe IV le Bel toujours qui va octroyer la régence, donc il dit la tutelle des enfants de France mais aussi le gouvernement du royaume à son épouse Jeanne de Navarre. Pourquoi ? Eh bien, pour l'attachement, l'amour qu'elle a pour ses sujets. Et aussi, on est dans l'idée que l'amour qu'elle a pour ses enfants, de toute façon, l'amènera à bien gouverner en leur nom. Il n'y a pas de risque d'usurpation, etc. On parle sans cesse de cet attachement de la mère à son enfant pour mettre en avant le rôle de la reine-mère comme régente. Alors, il est vrai qu'ensuite, avec la loi salique, de toute façon, le risque d'usurpation n'existe pas. Elle peut pas prendre le pouvoir, l'auctoritas. Et ensuite, sous Charles V et Charles VI, on retrouve aussi des ordonnances de régence. Alors, par moments, on leur donne juste la tutelle des enfants, mais on octroie le gouvernement du royaume à quelqu'un d'autre. Ou par moments, elles ont un rôle, elles président comme Isabelle de Bavière, elle doit présider le conseil de régence.
Isabeau ou Isabelle de Bavière généralement porte le sceau du honteux traité de Troyes. Or, pour avoir fait une émission avec Philippe Contamine sur Charles VII, on a l'impression que l'historiographie quand même la réhabilite quelque peu.
On réhabilite depuis quelques années Isabelle de Bavière et donc j'aurais justement revenir sur son prénom même puisque le terme d'Isabeau qui lui est accolé par l'historiographie et qui est créé dès le début du tout de suite quoi.
Est péjoratif
et est créé justement par ses ennemis politiques du moment pour la dénoncer, hein, et donc on la traite. Elle est Isabeau de Bavière, ce qui n'est absolument pas le cas dans les sources que l'on a, puisque dans les chars, dans les lettres, partout, elle signe soit Isabelle ou Élisabeth, qui est son vrai prénom, Élisabeth. Donc on va plutôt, aujourd'hui, si on continue dans cette réhabilitation, elle n'avait pas trop le choix, hein, en réalité, au moment du traité de Troyes. C'est très complexe, on est vraiment dans une guerre civile entre les Armagnacs, les Bourguignons, et là où on voit bien que les chroniqueurs, comme elles disposaient d'un pouvoir politique réel, les chroniqueurs ont sans cesse cherché à lui nuire, et donc elle a présenté comme vraiment la mauvaise reine. Comme elle a un pouvoir, ses ennemis politiques, déjà, ont dans un certain nombre de libelles, etc., diffamatoires, montré à quel point elle était une mauvaise reine. Alors, elle est comme d'habitude pour les mauvaises reines. Elle est cupide, elle est dépensière, elle est en proie donc à la luxure, et donc elle a des adultères, etc., etc. On retrouve toujours, là aussi, les mêmes stéréotypes qui sont développés quand on veut dénoncer. C'est ce qu'on retrouvera d'ailleurs après à la Révolution française contre Marie-Antoinette. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vous disais que c'est pour cette reine qu'on a finalement conservé tous les livres de comptes. Et il faut voir qu'à la Révolution française, justement, il y a un bureau des tris qui a été chargé de trier tous les documents d'archives qui subsistaient. Et à ce moment-là, on décide de conserver les livres de comptes d'Isabelle de Bavière puisque cela permet de montrer à quel point elle a été dépensière. On a les preuves ici qu'elle était vraiment une reine cupide et dépensière. Alors qu'en réalité, quand on étudie ses comptes, on voit bien qu'on est en fait dans cette société de cour où le rang, la dignité passe effectivement par un certain nombre de vêtements, de tissus d'or, etc. Mais ça fait partie de la société de cour, ce n'est pas du tout spécifique à Isabelle de Bavière.
Nous sommes dans un monde, je vais sortir de la politique, je vais revenir sur le religieux. Nous sommes dans un monde où le sacré est partout. La reine doit être un miroir de perfection pour ses sujets.
C'est l'un des rôles effectivement principaux qu'on lui assigne. Elle doit être un modèle de vertu. Un modèle de vertu, alors effectivement, dans le domaine du sacré, du religieux, dans le domaine moral aussi. Et on voit partout, dans tous les traités politiques, que c'est vraiment un des rôles qu'on lui assigne avant tout. Et ce modèle de perfection, il se retrouve aussi dans le choix des membres de son hôtel. Vous savez, elle a des dames et demoiselles d'honneur, etc.
Ce que vous présentez.
Voilà. Mmh. Et donc, on est vraiment dans une société de cour. C'est vrai qu'on pense toujours à la cour de Louis XIV à Versailles, mais là aussi, la genèse, il faut remonter bien en amont. Et on voit très bien qu'on est déjà dans cette société de cour, dans ses suivantes, ces dames, demoiselles d'honneur, dans une étiquette à la cour qui se met en place. Et la reine, on dit toujours, doit être le soleil. Au-dessus de toute sa cour.
À l'exception de Saint-Louis, qui reste véritablement une exception, tous les rois ont eu des maîtresses.
La plupart des rois ont des maîtresses, et ce qui est très intéressant aussi avec cette période, c'est que pour la première fois, une maîtresse a un statut officiel et vit dans le château du roi, donc au milieu de sa cour. Alors, déjà, sous Charles VI, comme vous savez, c'est le roi fou, violent, qui a même frappé, on sait très bien, Isabelle de Bavière. Donc, on lui donne une maîtresse qui est installée près de lui. Mais là, c'est pour un problème conjoncturel, on va dire. Alors que la première vraie maîtresse officielle, donc c'est Agnès Sorel. Et c'est vrai qu'elle est bien plus connue, notamment par les portraits ou par son action politique, que la reine, que l'épouse du roi qui s'appelle Marie d'Anjou et que plus personne ne connaît pratiquement. Et donc, c'est la première maîtresse officielle installée aux côtés du roi.
Nous arrivons, Muriel Godeferragu, au terme peu à peu de cette émission. On est surpris par le fait que votre livre soit au carrefour de plusieurs disciplines. On est à la fois dans l'histoire, dans le droit, mais aussi dans l'anthropologie.
On est au carrefour de tout, puisque de toute façon, on est obligé de passer. Alors, ne serait-ce que au niveau anthropologique, aussi, j'ai beaucoup parlé du rôle du rituel, du cérémonial, etc. On est effectivement au carrefour de plusieurs disciplines de sciences sociales. Et là aussi, on en a moins parlé, mais la reine a un rôle fondamental au niveau de ses rituels, parce que on a vraiment un corps, la mise en avant d'un corps qui incarne une dignité et du coup qui là aussi participe au bon fonctionnement de la monarchie. Et ce corps est mis en avant à de très nombreuses reprises. Et on voit très bien que c'est à cette époque-là que d'ailleurs le corps de la reine non seulement accompagne le roi sur les devants là des châteaux, des églises, etc., mais dans la mort, c'est vraiment pour la première fois en 1300, donc avec le changement de branche, 1328-1329, que dans leur testament, les reines demandent à être inhumées, et seront inhumées d'ailleurs à l'abbaye de Saint-Denis, qui auparavant était réservée uniquement au sang de France, au roi. Et là, pour la première fois, on voit le prestige et l'importance de leur sang, puisque dorénavant, elles sont toujours, on voit bien quand on visite l'abbaye de Saint-Denis, elles sont toujours inhumées aux côtés de leurs époux.
Nous avons utilisé le terme de paix, le rôle pacificateur de l'alliance. Donc, l'expression que vous utilisez, ce sont des dames de paix. Nous avons parlé de l'amour aussi. Vous utilisez l'expression dame de cœur. Alors, sans tomber dans un romantisme de mauvaise aloi et qui serait complètement anachronique, on voit des personnalités considérée positivement. La femme est considérée positivement.
La femme, quand elle est assimilée, c'est-à-dire que la femme, elle a le côté Ève d'un côté, et donc certains la font la tentatrice, etc., etc. Mais de plus en plus, on a quand même le culte de la Vierge Marie qui donne une valeur beaucoup plus positive à la femme, au corps féminin, etc. Et alors encore plus la reine qui doit être ce modèle de chasteté, de probité, etc. Donc l'assimilation à la Vierge Marie aussi fait que on a de plus en plus ce rôle positif accordé au corps féminin et à la reine en particulier.
Alors, il y a un lien que je n'avais jamais fait sur le plan intellectuel, c'est je ne sais plus qui parle de la côte d'Adam. Évidemment, la femme vient de la côte d'Adam, mais c'est pour être aux côtés d'eux, et d'où donc cela a donné l'expression. Donc on revient sur cette complémentarité, la reine est aux côtés du roi et forme un couple, et un couple jusqu'à la mort, puisque à partir de quand les reines accompagnent leur époux dans les sépulcres?
On a quelques cas, très rares cas, de reines qui, voilà, à l'époque mérovingienne ou carolingienne, ont pu être inhumées à Saint-Denis. Mais c'est vraiment avec le changement donc de branche, capétien, on passe aux Valois. La reine est vraiment mise en avant, le corps de la reine est mis en avant, et c'est vraiment la première reine, et ensuite toutes vont continuer, c'est la femme du Philippe VI de Valois, donc le premier roi valois, donc son épouse, Jeanne de Bourgogne, est inhumée à ses côtés, et ensuite toutes les reines de France, dans ses tombeaux jumelés, hein, le seront au XIVe, XVe siècle, et bien évidemment après.
Merci beaucoup Muriel Godefergue. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, La Reine au Moyen-Âge, le pouvoir au féminin, 14e, 15e siècle, un ouvrage disponible dans la collection de poche des éditions Talendier. Je vous remercie chers auditeurs, je remercie aussi Georges à la technique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce.